Connexion Primordiale, le podcast.
Santé, mouvement, réflexes primordiaux, mode de vie, périnatalité.
Avec Paul Landon
et Ludivine Vaubry
du centre de formation Le Plaisir d'Apprendre, www.apprendre.org.
Et tous deux professeurs d'IMP, intégration motrice primordiale, www.reflex.org.
Réflexe au pluriel. Bonjour Ludivine.
Bonjour Paul.
Nouveau numéro de notre podcast Connexion Primordiale. Aujourd'hui, le sujet est un livre qui nous tient beaucoup à cœur. C'est le troisième livre qui va sortir dans notre maison d'édition Ressources Primordiales. Et il nous tient beaucoup à cœur parce qu'il parle d'un de nos sujets de prédilection qui sont les réflexes archaïques. Ou plutôt d'un réflexe archaïque. Alors ce livre s'appelle...
Le réflexe pour la concentration et l'apprentissage.
Et il est sous-titré Le réflexe tonique symétrique du cou et ses implications. Et les auteurs sont...
Patricia Cook et Nancy Odell.
Exactement. Ces deux dames ont travaillé pendant des années avec une universitaire américaine qui s'appelle Miriam Bender, qui a mis au point une approche dans les années 80 sur les troubles d'abord de l'hyperactivité et les troubles de l'apprentissage. Miriam Bender a mis en évidence, avec des recherches et des études aux États-Unis, que dans quasiment tous les cas de figure, donc problème d'apprentissage, problème d'hyperactivité, on avait toujours une implication d'un réflexe archaïque très précis, un réflexe archaïque du nouveau-né, qui s'appelle le réflexe tonique symétrique du cou, ou RTSC pour les intimes. C'est-à-dire que ce réflexe qui est présent chez le tout-petit devrait disparaître au bout de quelques mois. Et Miriam Bender en a mis en évidence que ce réflexe est toujours présent, toujours actif chez les enfants en difficulté scolaire ou ayant des difficultés de concentration, n'est-ce pas ?
D'ailleurs, tu peux évoquer peut-être le titre d'origine ?
Le titre d'origine du livre, absolument. Nous, on l'a appelé, dans la version française, le réflexe pour la concentration et l'apprentissage, parce qu'on veut se focaliser sur qu'est-ce qu'on va améliorer. Mais c'est vrai que la version américaine, alors, a eu plusieurs titres, parce qu'il y a eu plusieurs éditions de ce livre qui marchent bien. Ce premier titre, c'est Stopping Hyperactivity, c'est-à-dire Arrêter l'hyperactivité. C'est sous ce titre que je l'ai connu dans les années 90. Et ce livre m'a beaucoup apporté à l'époque. Et puis ensuite, ils l'ont rebaptisé dans une deuxième édition, Stopping ADD et ADHD, c'est-à-dire aujourd'hui, on le traduirait en français par stopper les TDAH, c'est-à-dire les troubles
de
l'attention, merci, accompagnés ou non d'hyperactivité. Et puis, il s'appelle dans sa dernière édition Stopping ADHD and Learning Disabilities, c'est-à-dire arrêter les troubles de l'hyperactivité et les troubles de l'apprentissage. Voilà, absolument. Et donc, nous, on reflète ça derrière le titre qui va mettre en avant qu'on va développer la concentration et l'apprentissage. C'est un livre qui est très intéressant parce qu'il ne va pas se contenter de dire « voici le problème », mais il va aussi donner des tonnes de solutions et un programme complet moteur que toute personne peut utiliser. C'est-à-dire, des parents peuvent l'utiliser pour leurs enfants, des adultes qui auraient eux-mêmes des difficultés à ce niveau-là d'apprentissage, de concentration ou autre, peuvent l'utiliser pour eux-mêmes, puisque c'est quelque chose qu'on peut faire en autonomie, tout seul. Et ce que j'espère, c'est que beaucoup de professionnels avec lesquels on travaille, que nous formons, comme des kinésithérapeutes, des ostéopathes, mais évidemment les premiers concernés, les orthophonistes, les psychomotes, les ergothérapeutes, etc., puissent utiliser ce programme dans leur pratique de cabinet pour aider ces enfants qui souffrent. Et c'est pas difficile, on peut pas se tromper dans le sens où on peut évaluer est-ce que cette personne, cet enfant, cet adulte a bien un réflexe tonique symétrique du cou toujours présent chez lui. Et donc, si c'est le cas, on sait que le fait d'inhiber ce réflexe, donc dans notre jargon de l'intégrer, va aider cet enfant au niveau de sa concentration et de ses apprentissages ou cet adulte.
D'ailleurs, c'est ce qu'elles ont fait, ces deux dames, les deux auteurs, là, ou autrices, je crois qu'on dit autrices.
Autrices, voilà, Patricia Cook et Nancy Odell.
Elles ont donc ouvert un centre basé sur, aux États-Unis, mais basé sur cette méthode Bender, Miriam Bender.
Oui.
Et pendant des décénies, elles n'ont fait que, j'allais dire, c'est énorme comme travail, mais observer si l'enfant qui leur était amené présentait, et à quelle intensité, un réflexe tonique symétrique du coup immature, toujours présent, absolument, toujours actif à l'observation. Et puis après, elle mettait en place le programme. Donc les enfants et les familles avaient des choses à faire un petit peu chez eux, mais je crois que les gens venaient faire dans le centre très régulièrement, plusieurs fois dans la semaine, les activités qui sont proposées.
Voilà. C'est-à-dire que comme le programme, c'est un programme qui change au fur et à mesure des semaines, eh bien toutes les X semaines, tous les mois,
les variantes étaient montrées.
Voilà. Les gens revenaient pour qu'on montre les variantes du programme qu'ils doivent faire chez eux. Donc on va expliquer un peu comment le livre est structuré. Il y a trois grandes parties. La première partie, c'est quel est le vrai problème, c'est-à-dire cette première partie dit et met l'hypothèse. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'est une hypothèse avérée puisque les travaux statistiques le montrent, mais que dans beaucoup, si pas tous les problèmes scolaires et problèmes de concentration, on retrouve présents des réflexes archaïques non intégrés, et eux se sont concentrés sur ce réflexe tonique symétrique du cou. Et donc, elle dit c'est ça le vrai problème, le réflexe tonique symétrique du cou. Et elles insistent sur le fait de pouvoir observer ce réflexe chez les enfants. Et ça, n'importe quel enseignant, parent, professionnel peut le faire. C'est très aisé de voir, et on montrera sur des vidéos, et de toute façon dans le livre, on nous explique comment observer au niveau du comportement et au niveau corporel, est-ce que ce réflexe est présent ou pas chez cette personne, chez cet enfant. Donc ça, c'est la première partie.
Voilà.
Alors,
c'est bien expliqué. En fait, ce qui est intéressant, je pense, pour les enseignants, les parents ou les paramédicaux, on va dire les rééducateurs, c'est des fois décontenançant d'être face à un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, parce que les difficultés vont être assez hétérogènes et vont pas se manifester de la même façon suivant si l'enfant est en sécurité émotionnelle ou pas, suivant la position de travail qui lui est proposée, suivant le moment de la journée, etc., etc. Et donc là, c'est vraiment une observation très complète qu'elle nous propose et qui permettent d'avoir des arguments pour comprendre que un certain nombre, en tout cas, de facteurs qui sont à l'origine des difficultés d'apprentissage ne sont pas des problèmes comportementaux à proprement parler ou psychologiques, mais sont liés à une organisation corporelle particulière qui fait que le RTSC domine le corps de l'enfant à ce moment-là. Donc il est, comme on va dire, sous emprise de ce réflexe et que ça ne lui permet pas de pouvoir... Tant qu'il est dans cette bataille avec ses tensions corporelles, ça ne lui permet pas de brancher sa sphère cognitive de manière optimale. Et je trouve que ça, c'est vraiment très, très bien expliqué.
Moult dessins, descriptions, etc. Peut-être quand même, les gens doivent se poser la question, c'est quoi ce RTSC? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu que veut dire, comment s'exprime ce réflexe tonique symétrique du cou quand il apparaît, quelle est sa fonction
On peut peut-être dire ça rapidement. Donc, comme son nom l'indique, c'est un réflexe du cou. Donc c'est une réaction motrice chez le bébé qui apparaît aux alentours de 6 mois, on va dire entre 6 et 9 mois, et qui fait que le bébé va pouvoir passer, grâce à la manifestation, à l'émergence de ce réflexe, passer de la position à plat ventre et à la position 4 pattes et assise. C'est un réflexe transitionnel, parfois on dit ça quand on explique. Et il permet au bébé de passer entre différentes positions et donc de changer de plan dans l'espace. Et c'est une acquisition qui est particulièrement importante au niveau de ses compétences visuelles, au niveau de la croissance de ses compétences cognitives, relationnelles. C'est vraiment une grande acquisition motrice qui va avoir un impact très important. Donc comment se manifeste ce réflexe plus précisément quand le bébé, donc, je redis, est en position ventrale et qui va présenter une extension de sa tête parce qu'il va vouloir regarder ce qu'il y a devant lui. Il lève sa tête, ses bras vont se tendre et simultanément ses jambes se fléchirent. Donc il y a vraiment une coordination, une incidence entre le haut et le bas du corps par l'intermédiaire du mouvement du cou qui se met en place. Donc je répète, le bébé lève sa tête, ça lui fait tendre ses bras et fléchir ses jambes.
Donc il pousse un peu ses bras sur le sol, donc il lève le haut de son corps, mais comme en même temps il fléchit ses jambes sous lui, eh bien il va se retrouver dans une position du chat semi-assis.
Voilà, assis sur ses pattes arrière.
Sur ses pattes arrière,
voilà, donc fesses sur les talons. Voilà. Et il va passer pas mal de temps à observer ce qui se passe autour de lui, parce que c'est comme si cette position était prise un petit peu... on n'est pas comme on est dans l'ordre du réflexe, on n'est pas de l'ordre de la volonté, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une volonté quand même de se mouvoir, de se déplacer, de changer de position pour pouvoir observer les choses différemment ou interagir différemment avec son environnement, parce qu'il y a toute une maturité cognitive et affective qui fait que l'enfant a envie d'évoluer dans la manière dont il se comporte au niveau corporel, mais il le fait un peu, il le fait de manière automatique et de manière involontaire à ce moment-là, puisque c'est la définition du réflexe. Et ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand le bébé va baisser la tête, il va spontanément, automatiquement fléchir ses coudes, fléchir ses bras, et ses jambes vont avoir tendance à aller vers l'extension.
Donc se tendre.
Voilà. Donc, le bébé va passer beaucoup de temps dans cette dans ces positions. La position du petit chat, là, assis sur ses fesses. Et puis, il va se balancer un peu d'avant en arrière. C'est un réflexe symétrique, réflexe tonique symétrique du cou. Il va explorer comme ça, avant-arrière, avec des formes de balancement, de bercement, jusqu'à trouver vraiment une position plus déployée à quatre pattes. Et puis, toujours en se berçant, il va commencer à avancer et à se déplacer à quatre pattes, avec un mouvement alternatif bras-jambes, un mouvement qu'on appelle contralatéral, un mouvement croisé.
Tout à fait. Voilà. Donc on peut dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un mouvement de transition qui fait passer le bébé d'une position ventrale à la position, finalement, quatre pattes, et où il va pouvoir se déplacer.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est ce fameux quatre pattes, comme elle l'explique bien, qui va progressivement faire maturer ce réflexe et faire qu'on n'est plus sous l'emprise de ce réflexe, qu'on n'en ait plus besoin, que le mouvement pour passer de la position allongée à quatre pattes et puis assis et debout soit un mouvement volontaire et puis réflexe et automatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je lève ma tête, je ne vais pas fléchir mes bras et tendre mes jambes, et à chaque fois que je vais fléchir ma tête, je ne vais pas faire l'inverse avec bras et jambes. Donc ça, c'est très important.
Donc toute cette coordination, quand l'enfant a suffisamment marché à quatre pattes, suffisamment longtemps, quand ça s'est bien mis en place, toute cette coordination entre la tête, le cou, les bras et les jambes va se mettre en place, et l'enfant va pouvoir se mouvoir avec un degré de liberté maximum à ce moment-là, et puis se concentrer sur des mouvements, on va dire, qui, une fois que l'axe est bien en place et bien coordonné, va pouvoir développer des mouvements périphériques plus précis. Et c'est pour ça que ça va avoir un impact aussi très important sur les capacités attentionnelles et sur les capacités de lecture et d'écriture, comme elle l'explique dans le livre. Donc c'est bien bien expliqué comment on peut observer chez notre enfant, est-ce qu'il a bien marché à quatre pattes ou pas, comment ça se passe, combien de temps elles estiment que c'est nécessaire ce passage-là dans la motricité de l'enfant. Et donc on peut acquérir vraiment des repères pour observer ce qui se passe peut-être chez nous, dans notre famille ou auprès de nos patients, de nos clients. Donc ça, c'est intéressant. Tout à
fait. Donc, qu'est-ce qui se passe justement, c'est que chez certaines personnes, chez certains enfants, ce réflexe, par manque de quatre pattes et pour d'autres raisons dans le développement de l'enfant, au niveau corporel, physique, émotionnel ou autre, va garder ce réflexe. C'est-à-dire que ce réflexe ne va pas s'inhiber. Et donc l'enfant sera plus grand, il aura 7 ans, 8 ans, il va arriver à l'école bien sûr, et il va devoir lire, écrire, mais il sera toujours sous l'influence de ce réflexe. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va chercher, par exemple, à regarder vers le tableau, donc étendre sa tête, ça va affecter ses bras et ses jambes. Et à chaque fois qu'il va fléchir sa tête pour regarder son livre ou son cahier, ça va avoir un impact sur ses bras et ses jambes. Ça veut dire que, quels que soient les mouvements que fait l'enfant, ça a tendance à faire bouger ses bras et ses jambes. Donc, ça veut dire, à chaque fois que je bouge ma tête, je ne peux pas m'empêcher de bouger mes bras et mes jambes d'une certaine manière. Et c'est pourquoi souvent on va qualifier le comportement de ces enfants de hyperactif. Parce qu'on dit, il bouge tout le temps. Bah oui, on bouge tout le temps la tête. Parce que les organes d'essence chez l'être humain, comme chez la plupart des animaux, en tout cas des mammifères, sont au niveau du visage, mais au niveau de la tête. Donc nos yeux, nos oreilles, on est extrêmement audiovisuel. Donc dès qu'on veut regarder quelque chose ou écouter quelque chose, que ce soit en haut, en bas, à droite, à gauche ou n'importe où, eh bien, nous fait déplacer la tête. Et ça veut dire que chez ces enfants-là, chez ces personnes-là, à chaque fois qu'ils déplacent la tête, ça crée un mouvement incontrôlé au niveau des bras et des jambes, et donc il bouge. Et donc, dans le livre, on explique ce que ça génère quand je suis à l'école, quand je suis à la maison, quand je suis dans les lieux
publics. Voilà, ça, c'est la deuxième partie du livre.
Voilà.
Donc, des observations bien détaillées, comme tu le dis, dans les domaines sportifs, même avec les détails de différents sports, comment ça peut se présenter. Parce que ce qui est étonnant, c'est toujours de voir qu'il y a des enfants qui peuvent être performants quand ce réflexe est présent dans certains sports qui ne nécessitent pas forcément de coordination très particulière entre les mains et les pieds, par exemple, ou la tête et les mains, plutôt rattraper, lancer, etc. Mais il y a d'autres sports où ça peut être la catastrophe, comme certains types de nage, etc. etc. Comment ça se passe à la maison, les postures qui sont employées par les enfants pour pouvoir faire leurs devoirs, par exemple, dans des lieux publics, le comportement que l'enfant peut adopter. Donc, on retrouve forcément à un moment donné des choses qui peuvent nous parler ou attirer absolument. Notre attention par rapport absolument. À des enfants qu'on a fréquentés ou nos propres enfants ou qu'on accompagne dans le cadre professionnel. Et puis dans la troisième partie...
Alors, excuse-moi, avant, dans la deuxième partie, pour chaque problème évoqué, scolaire, sportif ou à la maison, non seulement elles donnent plein d'exemples, mais elles nous disent aussi comment faire pour aider l'enfant
c'est ça. Ce au sport, les moyens à la maison, voilà.
Les moyens de contournement, ouais, comment ouais. faire. Parce que je suis un éducateur, je suis un parent, je suis un enseignant, j'ai mon enfant qui a du mal à faire ce sport, qui bouge tout le temps à la maison, qui a du mal à faire ses devoirs. Comment faire pour l'aider avec des conseils pédagogiques, des trucs, des astuces, etc. Et ça, je pense là, enfin, moi j'ai appris beaucoup de choses, et pourtant ça fait 25 ans que je travaille avec des enfants en difficulté scolaire, pour aider encore plus les enfants, non seulement au niveau scolaire, mais dans leur vie de tous les jours, des super conseils à donner aux parents, etc. Je pense que là, il y a une mine de conseils et de choses très intéressantes.
Il y a des suggestions très pertinentes, oui. Je dirais même pour des gens qui n'appliqueraient pas le programme absolument. Qui est présenté dans la troisième partie, même si c'est fort évidemment. Intéressant de le mettre en place. Mais même si on n'appliquait pas tout de suite ce programme parce qu'on ne se sent pas prêt, parce que pour tout un tas de raisons, l'enfant n'est pas encore, ne se sent pas assez mature pour faire ça, ou voilà. Déjà, toutes ces solutions, ces suggestions de contournement, peuvent déjà soulager un petit peu les tensions corporelles réelles et très intenses que vit l'enfant, et donc peuvent soulager aussi les choses au niveau relationnel, oui. la tension familiale qui peut découler de ces difficultés d'apprentissage ou attentionnelles.
Et donc, la troisième partie, qui est le programme. Alors, quand on dit le programme, c'est pas un programme scolaire supplémentaire avec des exercices scolaires. Non, il s'agit d'un programme moteur. Et essentiellement basé autour de mouvements de type 4 pattes. Oui. Puisqu'on a dit que c'est le manque de 4 pattes petit ou un 4 pattes inefficace petit qui fait que le réflexe n'a pas pu s'intégrer, la logique, et donc c'est la logique de Myriam Bender et qui a été mise en place pendant plusieurs décennies par les autrices de ce livre, est de mettre en place des programmes moteurs basé sur le 4 pattes avec plein de variantes et plein de variations au fur et à mesure des semaines. On commence par des choses simples et puis on va vers des mouvements de 4 pattes de plus en plus complexes, de plus en plus mouvements croisés, de plus en plus
en réponse à des consignes verbales avec des petites des mouvements de contre-résistance éventuellement si on peut être en duo à ce moment-là, sinon il y a des choses qu'on peut mettre en place seul, parce qu'encore une fois on parle beaucoup d'enfants là, et c'est vrai que ce livre est illustré avec des photos d'enfants, etc., mais ça concerne aussi adolescents, adultes, tout public.
Bien sûr, beaucoup de gens souffrent de difficultés à ce niveau-là. Et on insiste que ce programme, tout le monde peut le faire, c'est très simple. Et puis deuxième chose, il a été fait comme si on le faisait sur une année scolaire, c'est-à-dire en prenant en compte que le programme commencerait vers fin septembre et finirait vers le mois de juin, pour qu'un enseignant qui souhaiterait le mettre en place, ou par exemple un orthophoniste ou un psychomote qui voit l'enfant au mois de septembre-octobre, dit tiens, on va mettre ça en place pendant l'année, et sur ces nombres de mois-là, quoi faire mois après mois. Voilà. Et donc là, il y a plein de trucs et astuces. Il faut savoir que le livre est accompagné d'une vidéo que les gens peuvent accéder en ligne et qui montre chaque exercice est vraiment clairement démontré par les autrices du livre.
Les exercices ne sont pas compliqués, mais c'est vrai que la vidéo nous fait acquérir quand même plus de précision dans l'accompagnement de ces mouvements-là, et c'est pas négligeable, je trouve. Alors nous personnellement, c'est vrai qu'on avait déjà pas mal de connaissances et de moyens de pouvoir intégrer ce réflexe. Mais on a expérimenté ce programme en plus de ce qu'on connaissait déjà, et les résultats sont vraiment prometteurs. Bon, pour ma part, moi je suis en train de continuer à essayer de proposer à certaines familles uniquement ce programme-là pour essayer de le comparer avec nos outils déjà existants. Alors c'est difficile pour moi de ne pas mélanger certaines choses, parce que c'est vrai que quand on connaît plusieurs choses, on fait un peu sa tambouille et voilà. Mais ça serait intéressant que je puisse plus isoler vraiment ce travail et le proposer à certaines familles. En tout cas, je m'en suis fortement inspirée toute l'année scolaire dernière, on va 2018-2019, là. Et avec beaucoup de succès pour les enfants accompagnés en cabinet. Donc, cette vidéo, elle est aussi, alors, elle est à l'intention des gens qui veulent aller à la rencontre de ce livre, mais elle est aussi pour les accompagnants en IMP, en intégration motrice primordiale, oui, qui sont formés, oui, autour des réflexes, oui, et qui n'ont pas forcément ces éléments.
Tout à fait.
Alors, nouveaux, ils ne sont pas nouveaux. Nouveaux au public français aujourd'hui, grâce, absolument, à la traduction de ce livre, mais c'est un travail qui a démarré dans les années, fin des années 80, toutes, bon, les années 90, années 80, et 2000. Oui, oui, donc, ce n'est pas du tout un travail nouveau. Non. Et on peut être rassuré aussi et avoir confiance dans le fait que ça a fait ses preuves.
Oui.
Et maintenant, à nous de nous en emparer.
Absolument.
Et de pouvoir, ouais, le proposer aussi. Aux
et,
familles, quoi.
Et justement, je pense qu'une dernière chose sur ce livre, c'est qu'ensuite, il y a des annexes, mm, et qui peuvent intéresser tout le monde, pour toute personne qui aurait besoin d'être plus convaincue et d'avoir plus de précision. Mm. Il y a trois annexes. Alors, la première, peut-être la moins intéressante pour nous, c'est par rapport aux différentes médications,
oui,
qui peuvent exister pour les enfants face aux troubles d'apprentissage. Mm. On donne parfois des médications et aussi pour les troubles de l'hyperactivité. Mm. Et les auteurs disent qu'elles ne sont pas totalement opposées aux médications, mais qu'il faut savoir qu'est-ce que font quels médicaments, mm, quels sont les effets secondaires. Et donc voilà, donc il y a une petite annexe sur à quoi servent les différents médicaments, mm, qui sont donnés dans ces cas-là. Je pense que ça intéressera les médecins, les orthophonistes, les, ouais, psychomotes, mais aussi des parents à qui on a donné comme réponse les, oui, médicaments. Oui. Et bon, elles ne disent pas qu'il faut arrêter toute médication, elles disent voilà, on met en place le programme et on voit avec le médecin, le psychiatre, mm, le professionnel, si la médication est toujours adaptée ou si on peut la réduire. Mm. Et on se rend compte que la plupart des enfants qui ont mis ce programme en place réduisent, voire arrêtent complètement, mmh, les médications, et que parfois c'était le réflexe tonique symétrique du coup qui était véritablement la cause de leur problématique. La deuxième annexe, l'annexe B, c'est une cinquantaine de questions-réponses sur comment mettre en place le programme, ouais, c'est-à-dire au fur et à mesure des années, des gens posent des questions, mmh, et là il y a une mine d'or d'informations vraiment à lire sur, ouais, le programme, la manière de l'utiliser, à quoi ça sert, comment ça marche, est-ce que c'est prouvé, mmh, scientifiquement, est-ce qu'il vaut mieux faire ceci ou cela, dans tel ordre, mmh, mon enfant a telle particularité, etc., etc.
Mmh. J'arrive pas à faire telle partie, comment,
oui,
je peux faire,
comment je peux faire autrement, ouais, mmh, etc. Donc là il y a plein de pistes, là, vraiment une cinquantaine de réponses aux questions. Et enfin, la dernière partie, l'annexe C, c'est un programme de recherche qui a été mis en place, supervisé par des universitaires, donc avec des statistiques, tout ce qu'il y a de plus officiel, dans une école sur un an. Justement, mmh, comme je disais que le programme a été spécialement conçu pour être mis en place sur une année scolaire, mmh, et bien là, on a fait des tests standardisés officiels à des enfants, en séparant les enfants qui avaient des difficultés de ceux qui n'en avaient pas, et on a eu un suivi avec quelles sont les statistiques de présence de ce réflexe tonique symétrique du coup. On voit que c'est plus de 85% des enfants en difficulté qui ont ce réflexe, et ensuite, comment ce programme a été mis en place, mmh, et quels résultats on a obtenus, en montrant bien qu'est-ce qui se passe au niveau scolaire, au niveau des différentes difficultés, au niveau de la concentration, mmh, et donc là, on a des statistiques intéressantes, et ça montre bien que le programme créé par Myriam Bender a une efficacité réelle qui a pu mettre en évidence de manière statistique. Donc voilà, ça fait quand même plus de 300 pages ce livre, avec dans le livre et dans la vidéo, il y a d'ailleurs des témoignages de familles, mmh, et de professionnels qui utilisent le programme. Nous, c'est un livre qui nous passionne, on est extrêmement fiers, mmh, de présenter ce livre sur, j'allais dire les réflexes archaïques, mais sur un réflexe archaïque. Et c'est une chose que je voudrais dire en conclusion, c'est que là, nous avons un livre extraordinaire écrit par deux experts sur un réflexe archaïque, mais il existe, depuis les recherches de ce livre, des dizaines d'autres réflexes archaïques qui ont tous un impact spécifique. Au niveau de l'apprentissage, on sait qu'il y a d'autres réflexes très importants, comme le réflexe tonique asymétrique du coup, le réflexe spinal de Galland. Au niveau de l'écriture, on peut citer le réflexe d'agrippement, mais il y a des réflexes qui ont un impact très fort au niveau de la posture, au niveau du pied, au niveau du dos. Il y a des réflexes qui ont un impact très fort au niveau émotionnel, au niveau de la sécurité émotionnelle. On pourrait parler du réflexe de Moreau, on a d'ailleurs écrit, je crois, tu as enregistré un épisode de podcast sur le réflexe de Moreau, qu'est-ce que ça fait, etc. Il y a des articles sur le site de l'IMP, qu'est-ce que ça fait au niveau émotionnel. J'aime à croire qu'il serait tout à fait crédible, alors évidemment, c'est pas souhaitable, ça ferait une grosse bibliothèque, mais un livre de ce type, de 300 pages, sur beaucoup de réflexes archaïques. Mmh. On pourrait avoir un livre aussi précis qui explique les effets du réflexe tonique asymétrique du cou, du réflexe de Moreau, du réflexe de Babinski, du réflexe d'allongement croisé, etc. Quel est l'impact de chacun de ces réflexes au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau cognitif, et quel mouvement, quel exercice, quel programme on peut mettre en place pour ce réflexe. Alors c'est vrai que aujourd'hui, du coup, il y a un grand nombre d'approches que nous on a synthétisées autour de l'IMP, mais ce livre est une mine d'or, on le recommande à toute personne concernés par l'amélioration de l'apprentissage, l'amélioration de la concentration, que vous soyez professionnel ou non, parent ou non, ce livre devrait vous passionner. Un mot de conclusion, Ludivine ?
Le mot de conclusion, c'est qu'on a le projet de faire aussi des petits bonus à ce livre.
Oui.
Vous pourrez suivre aussi.
Voilà, quelques petites vidéos.
Comment nous, en tout cas en IMP, on observe ce réflexe qui peut être un petit peu différent de ce qui est présenté dans le livre.
Absolument.
Quelles autres manières de le réintégrer sont possibles. Ça, je pense que c'est des trucs qui... Évidemment, le livre va susciter un engouement.
Oui.
Après, le programme en tant que tel, il est déjà, je pense, très complet, même si c'est le RTSC qui est visé dans ce livre. Je pense que le programme utilisé couvre la réintégration de plusieurs réflexes à la fois, même si ça n'est pas cité. Et donc, je voudrais juste préciser ça, que les gens qui connaissent les réflexes se disent pas, on ne va pas mettre en place un programme que pour un seul réflexe,
absolument,
alors qu'on connaît des choses plus globales pour les réintégrer. Ça fait partie pour moi des activités globales d'intégration des réflexes.
Oui, du fait qu'on travaille sur le 4 pattes, on sait que le 4 pattes va intégrer beaucoup de réflexes.
Oui.
Et donc, il n'y a pas que ce réflexe qui va être intégré, mais plein d'autres.
Même si c'est mis en avant principalement.
Et donc c'est forcément un livre qui va passionner toute personne qui s'intéresse de près ou de loin aux réflexes archaïques, que ce soit des gens qui font de l'IMP ou toute autre approche autour des réflexes archaïques.
Et il est très accessible aux parents.
Aux parents, absolument.
Voilà.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur le livre, dont je rappelle le titre, « Le réflexe pour la concentration et l'apprentissage, le réflexe tonique symétrique du cou et ses implications ». Vous pouvez le trouver évidemment sur le site de notre maison d'édition, www.ressources-primordial.fr, et ressources primordiales, c'est au pluriel. Merci, à bientôt.
À bientôt.